France Culture.
Rebonjour Thomas Cluzel.
Rebonjour Marie. En Israël, le ministre de la Défense a ordonné ce matin à l'armée de saisir plus de territoire à Gaza et menace de créer une zone d'occupation permanente à l'intérieur de l'enclave. Nous serons à Jérusalem pour tenter de décrypter la stratégie jusqu'au boutiste du gouvernement en dépit des voix critiques de plus en plus nombreuses. On se rendra par ailleurs sur le champ de bataille en Ukraine, près de la frontière avec l'agresseur russe. Avec notre invité, on parlera réarmement européen. On s'intéressera également aux dernières paroles du terroriste Mehdi Nemmouche à son procès et à quelques heures du verdict. Enfin, on poursuivra notre série politique à un an du premier tour des élections municipales. Déjà plus de 500 morts lors des dernières 72 heures et rien n'indique que le gouvernement israélien souhaite s'arrêter en si mauvais chemin. Ce matin encore, dans une escalade brutale, l'armée a non seulement intensifié ses bombardements massifs sur la bande de Gaza, mais aussi étendu ses opérations meurtrières au sol. Quant à la suite du scénario, elle est déjà prévisible. Destruction, famine et déplacement continu de la population palestinienne. Alors dans ce contexte, une voix s'est élevée hier pour tenter de briser le vacarme assourdissant de cette guerre. Celle du président israélien lui-même, dans une déclaration vidéo, Isaac Herzog s'est dit profondément troublé par la dure réalité, avant d'ajouter dans une rare critique du Premier ministre, sans toutefois mentionner nommément Benjamin Netanyahou, « Il est impensable de reprendre les combats tout en poursuivant la mission sacrée de rapatrier nos otages ». Thibault Lefèvre, bonjour.
Bonjour Thomas.
En direct de Jérusalem, beaucoup s'interrogent à présent, comme en témoigne d'ailleurs la multiplication ces derniers jours des manifestations en Israël. Le gouvernement et sa coalition ultranationaliste obsédée par la vengeance sont-ils prêts à sacrifier celles et ceux qu'ils avaient promis de ramener? Et cela uniquement, Thibault, dans le but de poursuivre une guerre totale, c'est-à-dire dirigée contre un ennemi aujourd'hui sans visage.
Il n'a sans doute jamais été aussi loin dans la critique du gouvernement. Le président de la République israélienne, il s'appelle Isaac Herzog, il a un rôle honorifique, il n'a pas de pouvoir exécutif, mais son opinion compte, et hier, il l'a exprimé dans une vidéo.
Il est impossible de ne pas être profondément troublé par la dure réalité qui se déroule sous nos yeux. Il est inconcevable d'envoyer nos fils au front tout en promouvant des initiatives controversées et qui créent de profonds clivages au sein de notre nation.
Référence à la procédure de limogeage inédite lancée hier par le gouvernement contre le chef des services secrets intérieurs. Il s'appelle Ronan Bar. Vous l'avez dit, Benjamin Netanyahou estime ne plus avoir confiance en lui, alors que le Shin Bet enquête actuellement sur une affaire de corruption impliquant le Qatar et trois des plus proches collaborateurs du Premier ministre. Autre parole sage très écoutée en Israël, celle de l'ancien président de la Cour suprême, Aaron Barak.
Nous sommes sur une pente glissante et si nous continuons à descendre, la démocratie israélienne va atteindre un point de non-retour. On a franchi beaucoup de lignes rouges. Et maintenant, il y en a une nouvelle. Il faut tout faire pour prévenir une guerre civile.
Benjamin Netanyahou assume, lui, être en guerre contre le Hamas à Gaza, évidemment, mais aussi contre l'État profond gangréné à ses yeux par la gauche.
Merci Thibault Lefèvre en direct de Jérusalem. Et puis à l'heure où Benjamin Netanyahou est accusé de dérive autocratique par l'opposition, j'ajoute que le gouvernement est appelé à un vote de défiance dimanche à l'encontre de la procureure générale, ardente défenseur de l'indépendance de la justice, ayant critiqué à plusieurs reprises des projets de l'exécutif israélien. Face aux visées impérialistes de la Russie comme aux incertitudes liées au désengagement américain, un nouveau sommet des pays prêts à garantir un éventuel accord de paix en Ukraine aura lieu jeudi prochain à Paris en présence de Volodymyr Zelensky. C'est ce qu'a annoncé hier le président Emmanuel Macron à l'issue d'une rencontre à Bruxelles entre les dirigeants des 27, un conseil européen au cours duquel il aura aussi été question des dernières propositions de la Commission visant à augmenter les dépenses militaires sur le vieux continent. On va y revenir dans un instant. En attendant, sur le terrain, la guerre se poursuit en Ukraine et en particulier dans le nord-est du pays où nos envoyés spéciaux Omar Waman et Jérémy Tuil ont pu se rendre près de la frontière avec la Russie, porte d'entrée vers la région de Koursk, occupée en partie par l'armée ukrainienne, désormais contrainte de se replier. Reportage.
C'est dans ce blindé de fabrication ukrainienne que nous voyageons. Sur le toit trône un gros boîtier.
C'est un brouilleur de drones du FSB que l'on a pris aux Russes sur le champ de bataille à Soudja.
Il nous a sauvé la vie à plusieurs reprises.
Le sergent-chef Sacha, même pas 30 ans, est chargé de nous amener sur une position de l'armée ukrainienne à l'est de la ville de Soumy.
On va bientôt traverser des villages déserts ou détruits, habités seulement par des personnes âgées.
Des villages que les Russes se sont acharnés à vider à longueur de bombardements. Nous arrivons au milieu d'une forêt. La nuit vient de tomber. Des véhicules de transport de troupes arrivent du front. D'autres partent au combat.
On est à 7 km de la frontière russe.
Le lieutenant shérif a pour mission de coordonner ce balai. Il est à la tête d'une unité composée d'hommes exténués mais vivants. Il y a 7 mois, ils entraient conquérants en Russie. Depuis, ils se retirent progressivement.
Là-bas, c'est très difficile. On a subi de lourdes pertes. Du coup, on est obligé de se replier pour épargner des vies.
Et seuls quelques villages de la région de Koursk échappent encore au contrôle de l'armée russe. Et si elle poursuit son avancée, c'est la ville ukrainienne de Soumy qui sera menacée.
Un reportage de nos envoyés spéciaux Marwaman et Jérémy Thuil. Alors je le disais, les 27 États membres de l'UE étaient réunis hier pour discuter des questions de défense européenne. Or, les ambitions de Bruxelles pour massivement réarmer l'Europe d'ici à 2030 sont aujourd'hui à peu près aussi grandes que les obstacles pour y parvenir sont nombreux. Tout d'abord parce que la défense reste quoi qu'il arrive une prérogative nationale, ce qui signifie que c'est donc aux États membres qu'il reviendra de décider in fine s'ils veulent augmenter ou non la part de leur PIB consacrée aux dépenses militaires. Ensuite, parce que la course au contrat risque d'attiser la concurrence qui existe déjà entre les différentes industries européennes de l'armement. Il faudra aussi déterminer à terme à qui incombera la responsabilité politique de cette Europe de la défense. Et puis surtout, les décisions budgétaires vont nécessairement devoir répondre à cette question essentielle au détriment de quel secteur faut-il aujourd'hui investir dans la défense. Pour mieux comprendre donc les enjeux liés au réarmement européen, invité de la rédaction aujourd'hui, Samuel Faure, maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, chercheur au laboratoire CNRS Printemps. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Voilà plusieurs semaines maintenant que les déclarations des leaders européens insistant sur la nécessité pour l'Europe de pouvoir davantage assurer sa propre sécurité se multiplient selon vous. Est-ce que l'effort mis en œuvre vous paraît suffisant pour répondre aux défis posés par la guerre en Ukraine d'une part et puis l'ébauche d'un désengagement militaire des États-Unis en Europe d'autre part?
Bon, difficile de le dire à ce stade parce que les incertitudes politiques sont encore nombreuses, mais ce que l'on peut observer depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février 2022, c'est un changement de braquet qui était attendu par certains depuis un moment et qui semble se concrétiser ces dernières semaines d'un passage d'une logique budgétaire, en tout cas comme vous l'évoquiez, en millions d'euros à une logique avec des propositions en milliards d'euros. Et en cela, on peut voir en effet une forme de réveil politique qui doit être encore confirmé à la suite du retour de Donald Trump à la Maison Blanche il y a 2 mois, de cette scène entre Donald Trump, son vice-président et le président Zelensky dans le bureau ovale il y a 1 mois, et la poursuite de la guerre en Ukraine par la volonté du président de la Russie, Vladimir Poutine.
En l'occurrence, le chiffre de 800 milliards d'investissements a été avancé par la Commission pour mettre en œuvre donc ce plan de réarmement. En réalité, ce montant cache un tour de passe-passe puisqu'il est constitué pour la très grande majorité, 650 milliards de hausses budgétaires décidées individuellement par les États membres. Est-ce que ça veut dire que l'essentiel de l'action à mener aujourd'hui en matière de réarmement ne se joue pas véritablement à l'échelle européenne mais reste dans les mains des États ?
Vous touchez ici, je crois, le principal enjeu de cette question et qui va continuer à questionner les acteurs dans les semaines et les mois à venir, puisque en effet, sur l'enveloppe de 800 milliards, 650 sont renvoyés en fait à cette largesse budgétaire et fiscale que va accorder la Commission européenne aux États membres en faisant primer, si l'on peut dire, le pacte de sécurité sur le pacte de stabilité, mais aussi avec le risque, l'effet non voulu, que les États se réarment de manière un peu contre-intuitive contre l'Europe.
On comprend bien que les équilibres restent plutôt favorables donc aujourd'hui au développement des défenses nationales, individuelles, plutôt qu'à l'émergence d'une autonomie stratégique européenne, ce qui explique notamment la multiplication des appels à créer des alliances entre plus petits groupes de pays. Est-ce que cette manière de fonctionner donc en dehors de l'unanimisme des 27 est fréquente ?
Cette logique que l'on peut qualifier par certains d'Europe à géométrie variable, d'Europe des cercles concentriques ou encore d'Europe à plusieurs vitesses, elle n'est pas nouvelle et elle n'est pas propre au secteur de la sécurité et de la défense. Mais c'est vrai qu'elle est souvent ramenée dans les discussions pour essayer de trouver une forme d'efficacité politique par une flexibilité plus grande des processus institutionnels. C'est pas une baguette magique. On l'a constaté dans d'autres crises constitutives de ce que il est communément appelé maintenant la polycrise depuis le début de notre 21e siècle. Mais c'est sûr qu'il va falloir articuler, c'est déjà le cas, les instruments proposés au sein de l'Union européenne, à 27 et en plus petits groupes d'États comme vous l'évoquiez, mais aussi avec d'autres organisations internationales, évidemment en premier lieu l'OTAN, l'Alliance Atlantique qui bat de l'aile depuis deux mois, et aussi avec des coopérations, des partenariats plus ou moins institutionnalisés. On pense au Royaume-Uni qui refait surface comme un acteur essentiel de cette nouvelle architecture européenne de sécurité. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau traité entre l'Union européenne et le Royaume-Uni? Est-ce qu'il va y avoir une réactivation des traités de Lancaster House qui avaient été signés en 2010 entre les deux puissances nucléaires du continent, la France et le Royaume-Uni? En tout cas, c'est sûr que cette question de cette gouvernance à niveau multiple est un enjeu fondamental pour essayer de répondre aux enjeux géopolitiques qui se posent et vont continuer à se poser dans les mois à venir.
Beaucoup de questions donc encore en suspens. Merci Samuel Faure, maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Après le retour de la guerre au Proche-Orient ainsi qu'aux portes de l'Europe, l'Asie sera-t-elle la prochaine poudrière mondiale ?
Tandis que la Chine multiplie les provocations autour de Taïwan, la Corée du Nord a, elle, annoncé ce matin avoir essayé un nouveau système de missiles anti-aériens, et ce alors que le dirigeant et autocrate Kim Jong-un accueille aujourd'hui même le secrétaire du Conseil de sécurité russe. Nouvelle illustration donc du rapprochement accéléré entre Pyongyang et Moscou depuis la signature l'an dernier d'un accord de défense mutuelle. Au Soudan, pays parmi les plus pauvres au monde, là-bas, voilà bien longtemps que déjà la guerre s'est intensifiée, une guerre civile menée par deux généraux autrefois alliés et qui a fait des dizaines de milliers de morts et déraciné plus de 12 millions de personnes. Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, l'armée a annoncé avoir repris le contrôle du palais présidentiel à Khartoum, qui était aux mains des paramilitaires depuis près de deux ans, sauf que la bataille, Christian, n'est visiblement pas terminée.
Oui Thomas, des tirs se font entendre dans la capitale soudanaise. La bataille du palais présidentiel est peut-être un point de bascule dans le conflit, le signe que l'armée régulière, général Bourhan, dirigeant de facto du Soudan, pourrait prendre l'avantage sur son rival Mohamed Hamdan Dagalo, dit Emeti, le chef des FSR, les forces de soutien rapide. Depuis plusieurs semaines, les soldats gouvernementaux ont regagné du terrain dans le centre du Soudan et autour de la capitale Khartoum et progressent dans le Darfour, fief des paramilitaires. Nous avançons dans toutes les directions jusqu'à ce que la victoire soit complète en nettoyant chaque centimètre de notre pays, a déclaré l'armée dans un communiqué. Ce matin, le palais présidentiel aurait donc été repris par les loyalistes ainsi que plusieurs ministères. Les forces dissidentes du général Dagalo assurent de leur côté que la bataille du palais n'est pas terminée. Elles ont lancé des drones contre l'édifice, tuant trois journalistes qui se trouvaient sur place. À ce stade, les forces paramilitaires tiennent toujours des positions dans Khartoum et dans sa ville jumelle d'Omdurman, de l'autre côté du Nil Blanc.
Merci Christian Chéneau.
Midi 44 sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
J'ai été un terroriste et je ne m'en excuserai jamais. Déclaration ce matin de Mehdi Nemmouche au dernier jour de son procès. Le bourreau à la solde du groupe djihadiste État islamique en Syrie est jugé devant la cour d'assises spéciale de Paris. Où vous vous trouvez, Gaëlle Joly? Bonjour.
Bonjour.
Si l'accusé principal a toujours refusé de reconnaître son rôle de gardien des otages occidentaux en Syrie, en revanche, Gaëlle, il n'a pas renié son passé djihadiste.
Oui, avec ses nombreuses feuilles à la main, debout dans le box, habillé tout en noir, Medine Mouche, 39 ans, avait préparé son intervention. « J'ai été un terroriste et je ne m'en excuserai jamais », a soutenu devant la cour d'assises celui qui a déjà été condamné pour l'attentat du musée juif de Bruxelles. « Je ne regrette pas un jour, pas une heure, pas un acte. Le fait que je sois prisonnier ne changera rien. Je suis un homme debout et je ne serai jamais à terre », a conclu l'accusé. Ce matin, comme tout au long du procès, il a refusé de reconnaître son rôle de geôlier, malgré les images de vidéosurveillance récupérées dans les sous-sols de l'hôpital d'Alep, malgré les nombreux témoignages des parties civiles, préférant citer Nietzsche, Montaigne, George W. Bush ou encore Vladimir Poutine. Après 5 semaines de débat, l'accusation a réclamé la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans contre Medine Mouche, qualifié de criminel sans état d'âme et de l'un des djihadistes les plus cruels de ces dernières années.
Merci Gaëlle Joly. Je précise que le verdict ne sera pas rendu avant 18h.
À un an du premier tour, les municipales 2026 ont tout de l'équation à multiples inconnus.
Une gauche divisée, une droite revancharde, une extrême droite en embuscade, sans même parler d'un mode de scrutin encore incertain s'agissant des 3 plus grandes villes de France. Alors depuis ce matin, nous avons déjà évoqué les enjeux pour les formations politiques traditionnelles, PS et Républicains, mais aussi le parti macroniste, lequel manque, on le sait cruellement, d'ancrage local. Quid à présent des défis à relever pour le Rassemblement National? Élément de réponse avec Antoine Marette.
Le Rassemblement National ne sera pas en mesure de présenter des listes dans les 35 000 communes françaises, très loin de là. Le parti d'extrême droite souffre d'un manque de cadre et d'ancrage dans les régions. La campagne du second tour des dernières législatives a confirmé à quel point le RN avait du mal à trouver des candidats crédibles dans certains territoires. Pour les municipales, c'est donc dans les villes moyennes et les petites villes de la France périphérique que le parti de Jordan Bardella va s'impliquer au maximum, car les grandes villes sont pour lui hors d'atteinte, selon le politologue et professeur des universités à Sciences Po, Pascal Perrineau.
La sociologie et la géographie des territoires français n'est pas toujours très favorable au Rassemblement National, en particulier dans les grandes métropoles, dans le cœur des grandes villes. Pourquoi ? Parce que ce sont des villes dans lesquelles il y a de fortes communautés étudiantes, il y a une population jeune, relativement éduquée, il y a beaucoup de cols blancs, et il n'y a que relativement peu de couches populaires. Or, on sait que ce sont ces couches populaires qui aujourd'hui sont le bastion social du Rassemblement National.
Parmi les villes que le Rassemblement National espère bien conquérir l'année prochaine figure Toulon, où Laure-la-Valette est bien implantée. Mais au-delà des victoires symboliques, le RN souhaite confirmer son enracinement naissant dans des départements où il a percé lors des dernières législatives, notamment l'Eure, le Loiret, le Tarn-et-Garonne, l'Oise ou encore l'Aisne. Car plus d'élus locaux pour un parti, cela veut dire plus de grands électeurs qui vont voter au sénatorial, et plus de maires, même dans des petites communes. C'est aussi un moyen de constituer des relais efficaces lors des campagnes pour des élections nationales.
La ministre de l'Agriculture a beau juger que les censures prononcées ne changent rien à l'ambition centrale du texte hier, le Conseil constitutionnel a tout de même censuré totalement ou partiellement près d'un tiers des articles de la loi d'orientation agricole, parmi lesquels Catherine Pétillon, plusieurs mesures phares censées répondre à la colère des agriculteurs sur le poids des contrôles et des normes.
Oui, la loi initialement destinée au renouvellement des générations s'était transformée au fil des mois en outil pour revenir sur des mesures de protection de l'environnement. Les sénateurs, tentés d'y voir un texte ouvert aux 4 vents, avaient ajouté de nombreux amendements, mais pour beaucoup non conformes, a tranché le Conseil constitutionnel. Il a censuré 11 articles pour des motifs de procédure, comme le fait de ne pas avoir de lien suffisant avec l'objet du texte. 7 articles sont eux censurés sur le fond. Sont ainsi retoquées les dispositions présumant du caractère non intentionnel des atteintes aux espèces protégées, ainsi que l'article qui consacrait la bonne foi présumée des agriculteurs lors des contrôles. Un article prévoyait que les normes réglementaires en matière d'agriculture ne puissent aller au-delà des exigences minimales des normes européennes sur l'usage des pesticides et la taille des bâtiments d'élevage. C'était une réponse directe au slogan de la FNSEA et de la coordination rurale « Stop à la surtransposition ». Disposition retoquée pour le Conseil constitutionnel, cet article méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs. Les conseillers ont aussi rejeté le principe contesté de non-régression de la souveraineté alimentaire, censé être miroir de la non-régression environnementale. La coordination rurale voit là une déclaration de guerre qui ne peut que conduire au naufrage de l'agriculture. Associations et élus écologistes saluent une petite victoire. Le texte reste malgré tout dans son ensemble régressif en matière environnementale.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par l'arrivée d'un front pluvieux par la façade atlantique. La moitié est du pays devrait encore conserver de belles éclaircies. Quant aux températures printanières, elles seront comprises entre 14 et 21 degrés. C'est la fin de ce journal, il a été réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Adrien Taufollet pour le prochain journal de la rédaction.